Merci Rachel pour cette lecture d'introduction à notre thème de ce matin. Avant tout, je voulais encore une fois vous saluer chacun personnellement. Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure. Je veux aussi vous saluer de la part de Marguerite qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui. Elle garde de nos petits-enfants. C'était son devoir d'aujourd'hui. Elle vous salue tous de tout cœur. Alors j'allais vous poser une question avant ce message. Quand je vous l'aurai posé, vous allez me dire, mais quelle importance que ça peut bien avoir, cela. Eh oui, la voici. Quel est le premier jour de la semaine, selon la notion biblique? Le lundi ou le dimanche?
Le dimanche, c'est le premier
jour. Ah, ça va. D'accord.
C'est pas le premier jour de la semaine,
dimanche? Eh bien, je sais pas, vous verrez ça. J'espère qu'à la fin de ce message, vous aurez compris qu'est-ce qu'il y en est et pourquoi ça en est ainsi et qu'est-ce que ça peut nous rappeler et quelle importance, effectivement, ça peut avoir. Posé comme ça, la question semble vraiment sans importance. Mais il y a toute une symbolique dans cette réalité. Et c'est cette symbolique que je voudrais expliquer ce matin. Alors, les évangiles nous rapportent que Jésus est ressuscité, comme nous l'avons vu, le premier jour de la semaine. C'est dit, par exemple, en Jean 20, verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre de bon matin, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, le tombeau était vide. À la suite de cela, dans la première église, on se réunissait le premier jour de la semaine, en souvenir justement de cette résurrection de Jésus, le premier jour. Juste deux courts passages pour confirmer cela. Acte 20, verset 7, il nous est dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il aura convenu. Or, nous savons tous que le jour où l'Église se réunit, c'est bien le dimanche. Donc, c'est bien le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Encore une fois, quelle importance ça peut-il bien avoir? Alors, on va voir. D'évidence, sous l'ancienne alliance, c'était le sabbat qui était le jour du repos, et c'était le septième jour, le dernier jour de la semaine. C'était le temps du repos après l'exécution de l'ouvrage. Les premiers chrétiens ne se réunissant plus le dernier jour de la semaine, le jour du repos, ce n'était donc plus ce dernier jour, mais c'était devenu le premier jour de la semaine. Et il y a dans cette réalité-là toute une symbolique. Symbolique de commencer la semaine par le jour du repos. Commencer la semaine par le jour du repos. Les premiers chrétiens ont voulu manifester par là une rupture avec le passé. Ils sont entrés par la foi dans cette ère nouvelle que Jésus a inaugurée en s'exclamant avant de mourir, tout est accompli. Cette ère nouvelle se caractérise donc par le fait que nous n'accomplissons plus notre ou nos tâches en vue d'obtenir le repos, mais comme bénéficiant du repos. Repos qui nous a été acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre notre vie, non pas pour acquérir le repos, mais comme étant entré dans le repos de Dieu, et cela par reconnaissance pour l'amour de la grâce que Dieu a manifesté en l'œuvre de Jésus-Christ. Rachel nous a déjà lu quelques passages dans l'Épître aux Hébreux, et c'est vrai que l'Épître aux Hébreux consacre un long exposé à cette réalité d'entrer dans le repos. Je relirai encore quelques passages de ce qu'a lu Rachel, en Hébreu, mais déjà en Hébreu 3, à partir du verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. En effet, nous sommes associés au Christ, c'est-à-dire nous sommes au bénéfice de son œuvre si nous sommes associés au Christ. Nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fidèlement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue de le dire. Conserver fidèlement. C'est peut-être une des choses qui nous est le plus difficile. Ne pas oublier, garder en mémoire, demeurer dans une réalité. C'est souvent un réel problème. On a compris quelque chose, mais on l'oublie si facilement. La preuve, ce même message, je l'avais apporté au mois de février. Quand je l'ai relu la semaine passée, je ne m'en souvenais plus. On oublie si facilement. Si nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Si on transpose cette réalité-là dans notre langage du Nouveau Testament, on ne parlerait plus de sortie d'Égypte, mais on dirait qu'ils se sont convertis, qu'ils sont nés de nouveau. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne, ce passage, cette réalité nous concerne nous aussi encore aujourd'hui. Et je poursuis la lecture, et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? En effet, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Poursuis encore un petit peu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par la foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans le repos, conformément à la parole de Dieu. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui les premiers ont entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. À plusieurs reprises, le point a été mis dans ce passage sur une réalité qui est exprimée de plusieurs manières. D'abord, il est question de ceux qui ne lui ont pas fait confiance, ceux qui ne se sont pas associés par la foi à l'œuvre qui avait été réalisée. Et par ailleurs, il est parlé de ceux de nous qui croyons. La clé donc pour entrer dans ce repos est répétée plusieurs fois dans ces quelques versets. Tout d'abord sous un mode négatif quand il est dit ils ne lui ont pas fait confiance, ou encore ils ne se sont pas associés par la foi, et aussi sur un mode très affirmatif. En effet, c'est à nous qui croyons. C'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos. Confiant, pas faire confiance, pas associer à la foi et par ailleurs croire. Entrer dans ce repos de Dieu, c'est donc lui faire confiance. C'est croire en l'œuvre qu'il a accomplie par Jésus-Christ qui s'est écrié « Tout est accompli ». C'est pour cela, comme cela a déjà été dit plus tôt, cette ère nouvelle inaugurée par Jésus-Christ se caractérise par le fait, comme je l'ai déjà dit, que nous n'accomplissons plus nos tâches en vue d'obtenir le repos, mais comme bénéficiant du repos qui nous a été acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Un autre passage qui illustre cela, en Éphésiens 2, versets 8 et 10. Sa grâce seule est source de notre salut. Cette grâce, nous l'avons saisie par la foi. Rien ne vient de nous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que nous l'avons reçu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés. Alors la conséquence de ce que nous devons tout cela à Dieu, c'est qu'il nous a créés en Christ maintenant pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Car voilà, la vie conforme à la volonté de Dieu. En d'autres mots, c'est entrer dans son repos, car par la foi nous sommes associés à Christ qui s'est écrié « Tout est accompli ». Je crois que nous avons toujours besoin de nous souvenir dans notre vécu de tous les jours. Car le souvenir, quand on l'oublie si vite, comme je te l'ai déjà dit, que ce n'est pas en accomplissant les commandements que nous avons acquis la grâce et la bienveillance de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui nous l'accorde gratuitement, comme nous l'avons lu, tout est cadeau de Dieu. Et la bienveillance de Dieu, c'est Jésus qui nous l'a acquise une fois pour toutes, par son œuvre rédemptrice, qui devient nôtre par la foi. En lui faisant confiance. Ne pas lui faire confiance, Dieu considère cela comme la désobéissance. C'est ce que nous avons vu, ce qui s'est passé avec les Hébreux dans le désert. Où il est dit, ils ne sont pas entrés dans son repos parce qu'ils avaient refusé de lui obéir. Alors nous aussi, n'essayons pas d'ajouter quelque chose à la grâce de Dieu en pensant qu'il faut faire ceci ou cela, ou en essayant de nous améliorer en vue de gagner la bienveillance de Dieu, afin que peut-être nous pensions qu'il pourrait à cause de cela détourner tel ou tel fardeau de nous, ou de penser que lorsqu'il nous arrive telle ou telle difficulté, c'est parce que nous n'aurions pas fait ceci, pas fait cela. Ou bien, encore, oui, quand il nous arrive une difficulté, on se dit, ah, ça m'arrive parce que je devrais faire ceci ou cela. Par cette attitude-là, nous manifestons que nous ne faisons pas entièrement confiance à la grâce de Dieu. Par cette attitude-là, nous manifestons que il nous semble qu'il nous faut encore ajouter quelque chose pour mériter cette grâce de Dieu. Cette attitude-là, c'est sortir de son repos et entrer dans la désobéissance. peux pas faire entièrement confiance au Seigneur, qu'il a tout accompli, que sa grâce seule suffit, que nous n'avons rien à y ajouter, c'est d'une certaine mesure lui désobéir. Par ailleurs, il y a aussi l'opposé à cela, et c'est ce que la Bible appelle abuser de la grâce de Dieu. J'ai par exemple entendu la situation de ce jeune homme qui venait d'une vie assez dissolue, tout en se disant chrétien, et qui s'en satisfaisait sous prétexte que Dieu est amour. Cela, c'est abuser de la grâce de Dieu. Il y a encore une autre attitude possible face à la grâce de Dieu. Celle de dire, par exemple, je ne veux pas faire usage de la grâce de Dieu parce que je ne veux pas, justement, abuser de sa bonté. Cela, c'est se priver volontairement de la grâce de Dieu qui est toujours prête à pardonner à celui qui se repent. Alors, dans le passage d'Éphésiens, il nous est dit quand même que nous avons quelque chose à accomplir. Nous avons des œuvres à accomplir. Voyons maintenant ce que c'est que nous devons accomplir. Je relis Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu par l'action de sa grâce. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est ce dont nous venons de parler. C'est cette grâce du tout est accompli que Jésus a réalisé. Et alors justement, à cause de l'œuvre de Dieu, nous sommes entrés dans son repos par la foi. Et alors, c'est cette réalité-là, il nous a recréés pour maintenant accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Réaliser cela, c'est extrêmement important. Nous n'accomplissons pas telle ou telle chose pour mériter la grâce de Dieu, mais parce que Dieu nous a fait grâce, parce que nous entrons dans son repos, il nous appelle maintenant à accomplir des œuvres que lui-même a préparées d'avance pour nous. Je ne veux pas revenir en détail sur ce que sont ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est en restant dans le repos de Dieu que nous allons maintenant réaliser ces œuvres. C'est effectivement sur la base de ce repos que nous commémorons le premier jour, que nous allons maintenant accomplir nos tâches de tous les jours, de même que nous allons réaliser ce que nous appelons, que nous aimons appeler, ce que nous voulons faire pour le Seigneur. Et quand nous réalisons cela, que c'est à cause de cette grâce qu'il nous a faite, que nous vivons, nous réalisons qu'il n'y a pas une part de vie de tous les jours, ordinaire, sans importance, et une autre part qu'on pourrait appeler spéciale, faite pour le Seigneur. Car si nous considérons que nous vivons dans le repos de Dieu, nous nous souvenons aussi que cette position, nous la devons à Dieu, et que cela nous a été acquis parce que nous sommes associés à Christ dans son œuvre. Et cela, aussi bien l'Épître aux Hébreux que l'Épître aux Éphésiens nous le précisent. Ainsi, tout ce que nous sommes amenés à faire nous le ferons dans la communion avec lui. Accomplissant ainsi cette autre recommandation qui nous est donnée en Colossiens 3, 23, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Ainsi, cette position dans le repos de Dieu, dans le tout est accompli, n'est pas une position statique. Mais ma foi, étant donné que tout est accompli, on n'a plus rien à faire. Éphésiens 2, 10 nous le dit clairement, Dieu attend de nous que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui explique cela encore un petit peu plus. Et c'est en 2 Pierre, à part de chapitre 1, verset 3 à 9. Il nous est dit là, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, nous pouvons échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la mort, et devenir participant de la raison, de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. Ce passage de Pierre suit exactement le même schéma que celui d'Éphésiens. Éphésiens dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Pierre confirme, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Éphésiens reprend, il nous a recréés en Christ, et Pierre dit, dans la communion avec lui, nous marchons dans la communion avec lui. Ces affirmations, au sens tout à fait identique, embrayent les deux sur la même conséquence. En Éphésiens, il est dit « pour nous faire accomplir les bonnes œuvres » et en Pierre, il est dit « pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. » Cette similitude est frappante, d'autant plus que ces deux textes émanent de deux auteurs différents. Elle nous montre clairement que cette position dans le repos de Dieu n'est pas quelque chose de statique, comme nous l'avons déjà dit, mais c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Puisque le texte utilise une expression très forte, faites de votre côté tous vos efforts. Cette dynamique, résultant directement de cette position dans le repos en Dieu et de la communion avec lui, nous stimule à mettre tous les efforts en œuvre, non pas pour être digne d'accéder au statut d'enfant de Dieu, mais pour mener une vie conforme à sa volonté. Non pas pour accéder au statut d'enfant de Dieu, celui-là, nous l'avons reçu par la grâce, et nous sommes entrés à cause de cette grâce, dans le repos. Mais cela maintenant nous amène à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors juste quelques éléments de cette vie conforme à la volonté de Dieu telle qu'elle nous est présentée dans 2 Pierre 1. Je reprends juste les grandes lignes. Développer notre foi. Adjoindre à notre foi l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que notre énergie morale s'accompagne de la connaissance spirituelle. et qu'à la connaissance spirituelle nous ajoutions la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, et cette attente patiente du secours divin, et à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Et enfin, à cet attachement à Dieu, joignons l'affection fraternelle qui nous conduira à l'amour. Et alors, quelle est la finalité de tout cela? En vue de quoi sommes-nous appelés à réaliser ces œuvres que Dieu a préparées d'avance? L'épître de Pierre y répond. Matthieu y répond aussi. Donc, d'abord en l'épître de Pierre. Ayez une bonne conduite au milieu des croyants, des incroyants, c'est-à-dire justement accomplir ces œuvres dont nous venons de parler. Et qu'au travers de cela, ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Et Matthieu 5, 16, c'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils vous glorifient. Non, il est dit là, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. La finalité du fait que nous sommes appelés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, à vivre cette vie conforme à la volonté de Dieu, c'est que lui soit glorifié. C'est que, au travers de notre manière de vivre, ceux qui nous entourent finissent par rendre hommage à Dieu. Et ainsi, nous accomplirons la vocation initiale de Dieu que Dieu avait donnée à l'homme, de refléter son image, vocation qui a été troublée par le péché, mais qui a été reconstituée par l'œuvre de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament rappelle cela tout à fait en Colossiens 3, versets 9 et 10. Car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, tout ce qui était de l'homme, avant que la grâce de Dieu ne se manifeste en nous, et que vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Donc l'objectif que Dieu a fixé pour nous, c'est que nous reflections l'image de notre Créateur. Je dirais que c'est pour cela que nous avons besoin d'apprendre, de rester dans le repos que Dieu nous a acquis par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors j'ai essayé de décrire la situation idéale telle que Dieu la veut pour nous. Mais ma réalité personnelle, notre réalité personnelle, est souvent bien éloignée de cet idéal. Et à cause de cela, j'aimerais nous inviter à éviter certains écueils, dans notre vie personnelle. Premièrement, celui de nous replacer nous-mêmes sous le régime de la loi, en sortant insensiblement du régime du repos et de la grâce, et en nous imposant des actions ou des attitudes pour mériter plus ou moins la grâce de Dieu. Ensuite, un autre écueil, celui de croire que nous y sommes arrivés, que nous avons atteint le but. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un se croit de vous, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » Encore un autre écueil, celui de croire que tout est perdu. Lorsqu'il nous arrive, je dirais, inévitablement, lorsqu'il nous arrive inévitablement, car nous sommes humains, de faire un faux pas, de commettre une erreur ou carrément de succomber au péché. Ça, c'est un écueil terrible, celui de penser, ben c'est fiché, ça ne vaut plus la peine. Celui de croire que nous n'avons plus la possibilité de faire appel à la grâce de Dieu à cause de nos erreurs et de nos péchés. Ça, c'est un écueil terrible que le Seigneur nous demande d'éviter. Et encore un autre écueil, celui de ne pas vouloir accorder aux autres la grâce que nous revendiquons. Alors je vous laisse encore un dernier verset de 2 Timothée 2, verset 1. L'apôtre Paul dit là, « Mon enfant, puise tes forces, celles qu'il te faut pour éviter ces écueils dont je viens de parler, dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce. » L'évangile de Jean nous dit que nous pouvons puiser jour après jour, grâce après grâce, dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Sachant cela, réalisant cela, nous voulons louer et adorer notre Père justement pour cette grâce qui nous met au bénéfice de cette œuvre parfaite et pleinement valable réalisée par Jésus-Christ et qui nous permet, cette grâce qui nous permet d'entrer, mais aussi de demeurer dans son repos. Je vous invite à la prière.
L'esprit par sa parole se rend visible.
Hein?
L'esprit par sa parole se rend visible.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ que tu as accomplie pour nous, qui sommes pécheurs, qui avons besoin de pardon jour après jour. Merci parce que tu nous permets d'entrer dans ce repos en te faisant confiance. Confiance que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu veux la rendre parfaite. Confiance que malgré nos erreurs, nos manquements, tu ne nous rejettes pas, mais tu nous accueilles et tu nous replaces dans ce repos, dans cette confiance en l'œuvre parfaite de Jésus. Et avec cette force que nous pouvons puiser dans ta grâce, tu nous donnes la possibilité de marcher d'une manière qui te glorifie, de mener cette vie digne de toi par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, dont il nous est dit que c'est cette puissance que tu nous offres gratuitement. Béni sois-tu pour cela, Seigneur notre Dieu. Merci que tu nous aides à vivre cela au quotidien, dans tout ce que nous avons à faire jour après jour, que dans tout cela, nous puissions être dignes de toi. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous donnes cette force par le Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus, qui est avec nous tous les jours. Amen.